Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polothèque
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Jean-Charles Chourek, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de la Pologne et des relations judéo-polonaises. Et nous vous avons invité aujourd'hui afin que vous puissiez nous éclairer sur la situation actuelle et politique en Pologne, et plus particulièrement sur la question de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qui fait l'objet d'une relecture très idéologisée et d'une véritable intrusion, d'ailleurs dans le domaine historiographique, de la part du nouveau gouvernement ultra-conservateur. Ainsi, à l'automne 2016, le ministre de la Justice, Zbigniew Ziobro, je ne sais pas si je prononce bien.
Zbigniew Ziobro.
Voilà. A proposé un projet de loi visant à protéger la réputation et la dignité de la nation polonaise. Un projet qui fait encourir une peine allant jusqu'à 3 ans de prison et une amende à quiconque déclarerait publiquement que des Polonais ou l'État polonais seraient responsables de crimes commis par les nazis ou auraient collaboré avec eux. Qu'est-ce que ça nous dit de ce qui se passe aujourd'hui en Pologne ?
Ça nous dit qu'un vent mauvais souffle sur la Pologne depuis la victoire du Parti Droit et Justice à l'automne 2015 et qui a introduit une espèce de révolution antidémocratique pour la première fois depuis la chute du communisme. C'est-à-dire que c'est un gouvernement qui a introduit une série de mesures autoritaire, qui ressemble fort sous certains aspects à ce qu'avait été l'ancien pouvoir communiste, pour la première fois depuis 1989, et qui aussi, dans le secteur de l'histoire, de la mémoire, de ce que ce gouvernement appelle la politique historique, vise à réviser des acquis, qui sont à la fois des acquis de la mémoire, mais aussi, sinon surtout, des acquis de l'histoire. Il faut savoir que deux choses se sont passées en Pologne, importantes dans ce débat-là et dans ce contexte-là. La première chose, c'est la découverte que la Pologne n'avait pas été un pays innocent à l'égard de l'extermination des Juifs. Et qu'il n'y avait pas, comme cela avait été illustré, comme cela avait été montré, une situation où d'un côté il y avait des Polonais victimes à la fois de l'agression nazie, ce qui a été effectivement le cas, puisque presque 3 millions de Polonais non-juifs ont été exterminés au cours de la Deuxième Guerre mondiale, et que de l'autre côté ils ont été aussi attaqués par l'Union soviétique et que de nombreux Polonais avaient été victimes des soviétiques. Donc une nation victime, et elle s'est posée en nation victime, en nation Christ, puisque c'est un pays catholique, donc elle était nation Christ. Et avec la découverte que cette nation victime s'est aussi livrée à des crimes et à des exactions contre les Juifs, ce qu'a montré un historien américain d'origine polonaise qui s'appelle Jan Gross, à travers un livre très connu maintenant qui s'appelle Les Voisins, où il montrait que dans une localité de l'est de la Pologne, la population polonaise avait exterminé toute la population juive, eh bien, que cette nation innocente n'était pas aussi innocente que cela. Ça a provoqué un débat public extraordinaire en Pologne, très très important. L'équivalent des débats qu'on a eus en France sur Vichy, par exemple, il y a une vingtaine d'années. Et ça a été un débat très salutaire, un débat mémoriel important, qui s'est soldé quand ce crime a été découvert par une repentance officielle. Le président polonais de l'époque
En quelle année, ça ?
À peu près ? 2001 exactement, la repentance officielle a eu lieu en 2001, en juillet 2001, pour le 60e anniversaire de ce massacre. Et les corps constitués, les ambassadeurs se sont rendus là-bas. Donc c'est un acte fort, c'était un acte très fort, et la Pologne est le troisième pays à avoir reconnu, avoir fait face à son passé. Il y a eu l'Allemagne d'abord, je parle de l'État, des structures de l'État, des superstructures comme on dit. Hein. Donc il y a eu l'Allemagne, il y a eu la France avec Vichy, et il y a eu la Pologne. Il n'y a pas d'autre pays qui, au niveau de l'État, ait eu cette attitude. Jan Gross est considéré comme un historien qui a provoqué ce débat. Et en 10 ans, grâce à ce livre, grâce à ce débat, et grâce à un autre livre qui a été publié en français qui s'appelle La Peur, qui traite aussi des exactions et des crimes commis contre les Juifs par les Polonais après la guerre, pendant la guerre, et il fait le lien entre les deux, on peut dire que cette option de Jan Gross a gagné sur le plan historiographique. Disons que la majorité des historiens, qui n'étaient pas nécessairement favorables à cette idée-là, s'est rangée à cette idée, des historiens et des spécialistes, et de l'opinion éclairée, s'est rangée à cette révolution historiographique pour la Pologne. Et il faut dire aussi qu'en Pologne est née une école historique très importante qu'on a beaucoup vue en France, on l'a vue au mémorial de la Shoah, on l'a vue dans les instances universitaires, autour d'une équipe de Polonais qui a développé les recherches, les intuitions et les recherches de Jan Gross à travers des investigations sur le ghetto de Varsovie, dans les provinces, et où il montre précisément cet aspect-là de l'attitude polonaise à l'égard de la population juive pendant la guerre. Voilà, donc une école historiographique, une mémoire, tout ça, c'est un legs, c'est un héritage fort, non pas du communisme, ça ce serait vraiment, vraiment pas le cas, mais de l'après-communisme, de la démocratie retrouvée et de la place de la Pologne forte en Europe, sur ce plan-là, de la mémoire et de l'histoire concernant le passé juif. Avec l'arrivée du Parti Droit et Justice, qui opère cette révision générale et de la politique et de l'histoire, et ça ne s'adresse pas que uniquement à la politique historique concernant les Juifs, ça s'adresse à toute la population. Il y a un mouvement populaire très puissant contre ce gouvernement. Avec ce gouvernement Droit et Justice, il y a en matière de politique historique une transformation importante dans le domaine de la mémoire et de la politique historique. Dans le domaine de la mémoire, ils ont été visiblement échaudés par cette révision historique mémorielle inaugurée avec le Livre des Voisins, et d'où ce projet de loi. D'où ce projet de loi qui s'adresse aux chercheurs qui voudraient aller dans ce sens. Mais il faut dire, pour être juste, que dans ce projet de loi, moi je ne sais pas si nous avons le même texte, vous et moi. Moi, j'ai un texte qui doit dater de juillet, mais je pense que c'est le même, qui est un projet de loi qui pénaliserait toute histoire, qui soulignerait la partie participation polonaise au génocide, qui dénoncerait la participation polonaise au génocide, donc, et qui serait susceptible d'une peine de 3 ans de prison, à condition que cela soit pas prouvé. Hein. C'est-à-dire, si l'on arrive à prouver qu'il y a eu participation polonaise, le projet de loi ne s'applique pas. Il y a quand même cette clause-là qui est incluse.
Parce qu'il y a un débat autour du dernier ouvrage de Jan Gross, c'est ça, puisque... C'est ça pas... qu'il faut dire, c'est qu'il y a un an, et c'est peut-être là que la communauté internationale a pris conscience du problème, Jan Gross s'est vu retirer, ou en tout cas menacer, parce que je ne sais pas si on l'a retiré finalement, la médaille de l'Ordre du Mérite qu'il avait reçue en 1996.
Jan Gross a été attaqué, effectivement, on l'a menacé de retirer sa médaille, ça c'est une mesure symbolique, mais... Il n'y a pas seulement qu'une mesure symbolique, il y a aussi une mesure juridico-politique en fonction d'un autre paragraphe du code pénal polonais. Le procureur général a ouvert une enquête pour outrage public à la nation polonaise. C'est pas tout à fait la même chose. Outrage public parce que il insulte la nation polonaise avec ses prises de position et il risque jusqu'à 3 ans de prison. Eh bien, ce qu'il faut dire, c'est que le procureur qui l'a convoqué à Katowice, dans une ville de province, l'a interrogé pendant 5 heures et au bout de 5 heures, l'a relâché. C'est-à-dire, a considéré que les charges n'étaient pas avérées. Et la hiérarchie de ce procureur a réentamé une nouvelle procédure voir si ses déclarations, ses écrits n'entachent pas l'honneur de la nation polonaise. Et la décision doit être rendue au mois d'avril.
Voilà. C'est une affaire en cours.
Ah, c'est une affaire en cours. Il y a donc une action politico-juridique, idéologique, une pression forte sur Jan Gross, sur tous les chercheurs, pas seulement sur Jan Gross, y compris sur moi, par exemple, puisque dans mes écrits, je ne suis pas loin de ce que raconte Jan Gross. J'imagine pas qu'il puisse y avoir des attaques de cette nature, mais on ne sait jamais.
Puis il y a eu aussi avec Yad Vashem, je crois, il y a eu une polémique parce qu'ils disaient les camps en Pologne, il fallait plus dire les camps en Pologne.
Il fallait dire les camps nazis.
Non, ça, c'est pas seulement Yad Vashem. Et là, il touche un point qui est politiquement exact. En ce sens que, depuis maintenant très longtemps, dans la presse mondiale, c'est installé par une sorte d'élément de langage, comme on dit, de facilité de langage, et même que beaucoup de gens pratiquent de façon absolument impropre et injuste pour les Polonais, je dois le dire, l'expression les camps polonais ou les ghettos polonais. Il n'y avait pas de ghettos polonais. Il y avait des ghettos nazis installés en Pologne occupés par les nazis. Hein. Il n'y a pas eu de camps polonais. Il y a eu des camps de concentration nazis faits par les nazis. Donc les Polonais se vexent. Est-ce que ça doit aller jusqu'à des mesures juridiques, des menaces de cette nature? Ça, c'est leur affaire. Ils le font. Ils en font une affaire politique. Ils la font mousser. Mais sur le fond, ils ont raison.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut peut-être le dire, il ne s'agit pas de révisionnisme. En aucun cas, il ne tente de nier...
Il commence à y avoir du révisionnisme dans l'air, si je puis dire. En ce sens que la ministre de l'Éducation nationale a, par exemple, mis en cause la responsabilité... des Polonais dans différents pogroms, dans le pogrom de Kielce en 46, pour lequel il est avéré que c'est les Polonais qui ont fait cela. Elle a commencé à mettre des bémols en insinuant que ce n'était pas sûr que ce soit des Polonais. En tout cas, il fallait que les Polonais décident de leurs propres opinions et pas des chercheurs extérieurs sur ce qui s'était passé à Kielce. Le directeur de l'Institut de la Mémoire Nationale, qui est une institution très puissante en Pologne, de plusieurs centaines d'historiens, de juges, d'administratifs qui cherchent à investiguer les crimes commis contre la nation polonaise essentiellement sous le communisme. C'est pour ça que cette institution a été créée, mais qui par extension s'adresse aussi aux crimes du national-socialisme. Eh bien, le directeur de cette institution, qui est une institution puissante, qui s'appelle Charek, pas Chourek comme moi, mais il s'appelle Charek, ce monsieur a dit que les auteurs du crime de Jedwabne étaient des Allemands et que ce n'étaient pas des Polonais. Donc voilà, là on est en plein dans le révisionnisme. Alors ce sont des déclarations de personnalités publiques, ce ne sont pas encore des recherches historiques qui viseraient à relativiser, à aller dans ce sens-là. Mais enfin, le vent souffle, ça fait partie de ce vent mauvais.
Il y a pourtant eu un véritable travail de mémoire qui a été fait en Pologne. Vous le disiez, depuis 2000, est-ce que ça concernait uniquement, on va dire, la communauté historique, ou est-ce que ça a pénétré un peu plus largement au sein de la population ?
Ça a pénétré tout le monde. C'est une... Tout de suite après 89, il y a eu un festival qui est un festival de culture juive, qui est très intéressant, qui est né à Cracovie. Festival de la culture juive, essentiellement centré sur la musique, où les musiciens de musique juive, si je puis dire, se klezmer principalement, se pointent. J'ai entendu, par exemple, il y a un disque de Krakauer qui s'appelle Krakauer in Krakow. Krakauer in Krakow, et il s'est produit à Cracovie avec ce Krakauer in Krakow, qui est un disque. Voilà. Donc il y a des manifestations de la mémoire juive importantes. On peut en penser ce qu'on veut, parce que il y a une sorte de place à Cracovie où sont ces synagogues et ces restaurants juifs qui sont très faux juifs et qui sont sur lesquels on peut avoir les plus grandes réticences. Mais il n'en reste pas moins quand à la fin juin de chaque année viennent des juifs du monde entier écouter cette musique-là. C'est pas le seul événement de mémoire. Il y a beaucoup de restauration de cimetières juifs, il y a beaucoup d'Israéliens qui viennent aussi, il y a des jumelages, il y a des festivals culturels dans d'autres villes, à Varsovie, il y a des chaires aussi universitaires de culture juive qui naissent à Varsovie, à Lublin, à Cracovie. Donc il y a un renouveau de la mémoire juive et même de la communauté juive qui n'est pas négligeable. Donc oui, cela existe, effectivement.
Mais est-ce que, du coup, ce nouveau positionnement trouve écho dans la population, ou est-ce que finalement ce travail de mémoire ayant été fait
Ce sont des mouvements parallèles. Le mouvement de mémoire a lieu, il est lieu. Il y a aussi une sorte de fascination pour le passé juif, que l'on peut comprendre. C'est un passé fascinant, disparu brutalement. Si vous êtes un intellectuel un peu curieux, un peu normal, si je puis dire, vous allez vous intéresser à ces Bashevis-Singer, à ces Pérez, à ces écrivains, à cette culture, à tout ce qui a été englouti. Et donc, voilà, ça, c'est revenu dans le contexte de la démocratie, alors que le communisme l'avait quand même mis sous le boisseau, pour des raisons qui étaient celles du communisme.
Idéologique, oui. En l'occurrence, là, il y a par exemple, en décembre dernier, la directrice de l'Institut polonais de Berlin, qui a été limogée par l'ambassadeur de Pologne en Allemagne, justement parce qu'elle traitait trop souvent de sujets judéo-polonais dans son programme.
Oui, alors ce n'est plus le même versant. Là, on a parlé de la mémoire. Là, on est dans la bataille culturelle que mènent les autorités actuelles, dans cette contre-révolution démocratique. Donc, cette volonté de mettre en place ce qu'ils appellent probablement une sorte de vraie Pologne. Ils combattent jusqu'à maintenant, il y avait une sorte de communisme pour eux, c'est-à-dire que comme le régime polonais de l'après 89 est né des accords entre l'ancienne opposition démocratique et le pouvoir communiste en 1989, donc il n'y a pas eu de chasse aux sorcières, il y a eu un agrément entre les élites, ça c'est vrai. Et c'est heureusement qu'il y a eu cet agrément, parce que ça a permis à ces pays, à l'ensemble, à part la Roumanie, à l'ensemble des pays de l'ancien bloc socialiste, d'entamer une transition pacifique, sans effusion de sang. Mais pour l'équipe au pouvoir, cette alliance était encore une forme de communisme. Et donc, son arrivée correspond à une l'irruption de quelque chose de nouveau, d'un assainissement de la Pologne. Et dans le cadre de cet assainissement, il faut une nouvelle politique culturelle. Il y a d'abord ils ont leur mythe fondateur. Le mythe fondateur de la nouvelle Pologne, c'est la dénonciation du complot qui a existé entre Poutine et l'ancien premier ministre polonais Donald Tusk à propos de l'avion polonais où le président et toute l'équipe qui était là est mort. Ils en ont fait une affaire extraordinaire. L'ancien président polonais a été, qui était une personnalité politique normale, si je puis dire ordinaire, a été enterré au château des rois de Pologne. Non, tout ça fait partie de ce décorum fondateur, et dans le cadre de ce décorum fondateur et de cette politique fondatrice, il y a cette politique culturelle. Je reviens à votre question, je ne l'ai pas oublié. Dans le cadre de cela, il faut qu'on développe une idée patriotique, qu'on élimine les personnels qui s'intéressent trop au passé juif. C'est voilà un petit peu ce qui se passe dans le cadre de cette bataille culturelle. Culte du patriotisme, et aussi mise en place d'une politique muséologique nouvelle.
Alors justement, c'est ma prochaine question. Est-ce que cette politique actuelle peut avoir une conséquence sur les différents lieux de mémoire juive en Pologne ?
C'est difficile à dire pour l'instant. Je pense que cela n'est pas encore touché. Cela n'est pas touché pour l'instant. Ils ne sont pas attaqués en tant que tels, mais ils sont surtout... Mais ce qui est surtout développé, c'est cette partie patriotique, cette partie qui montre l'héroïsme polonais. On choisit des héros qui ne sont pas des... Le héros ne sera pas le héros du ghetto de Varsovie. Le héros sera le combattant polonais qui a à la fois combattu contre le nazisme et de préférence contre le communisme. Alors, il faut savoir aussi que les mesures introduites depuis plus d'un an par ce gouvernement polonais suscitent une opposition massive dans la population. Bien qu'il ait encore un soutien sur le... C'est ce que montrent les sondages. Les intellectuels, la jeunesse étudiante manifestent régulièrement contre les mesures antidémocratiques qu'il propose, notamment sur le tribunal constitutionnel qu'il a voulu dégommer et qu'il a finalement réussi à ébranler largement, sur la question de l'avortement. Et là, il faut bien dire que les femmes polonaises ont gagné. On a vu des manifestations de masse à propos des mesures qu'ils voulaient introduire sur l'avortement. C'est leur première reculade. À propos des mesures qui ont muselé la presse publique, là aussi, face à toutes ces mesures de répression, il y a eu de grandes, grandes manifestations de masse.
Et, oui... On est où actuellement de l'enseignement de la Shoah en Pologne? Est-ce qu'il y a eu, là, vous évoquiez le cas de la ministre de l'Éducation, est-ce qu'il y a déjà une pénétration
jusqu'à maintenant? Ils sont encore là depuis, ils sont là
très peu de temps.
Pour introduire des changements dans les manuels scolaires, il faut du temps. Donc je ne sache pas qu'ils aient déjà introduit des changements de cette nature, de nature révisionniste, dans les manuels scolaires. Mais, dans les 27 dernières années écoulées, il y a quand même une pluralité des manuels scolaires, où la Shoah est bien présentée, bien exposée. Cela dépend évidemment des manuels. Il y a des manuels plus ou moins orientés dans un sens ou dans un autre, mais par rapport à la période communiste, il y a quand même une certaine honnêteté par rapport à la Shoah en Pologne. Là où c'est moins évident, c'est la question que l'on évoquait à l'instant, c'est la participation polonaise à la Shoah. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas évoqué. Oui,
bon. Dans les manuels actuellement, vous voulez dire?
Oui, jusqu'à d'accord. maintenant, ou peu.
Et par rapport au fait que les morts sont des morts juifs, en fait, parce que par rapport aux chiffres, il y a eu longtemps, on disait que les victimes polonaises étaient
oui, mais ça,
des victimes juives.
Ça, c'était plutôt de la propagande communiste. Hein. La propagande communiste a tout de suite mis en avant le fait qu'il y avait 6 millions de morts, et on ne parlait pas que ces 6 millions de morts, il y avait 3 millions de juifs. Cela a été rectifié dans les conditions de la naissance de la démocratie polonaise après 89. Et surtout avec l'éruption de la mémoire juive, ça, les révisions historiques ont été fructueuses de ce point de vue-là.
Et on raconte, donc l'histoire qui est racontée, c'est bien d'un côté les 3 millions de morts polonais, et de l'autre côté les 3 millions de morts juifs.
Bon, ça dépend du contexte, évidemment, mais enfin, il y a une conscience que oui, il y a eu 3 millions de Polonais non juifs et 3 millions de Polonais juifs qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette chose-là est bien plus développée aujourd'hui qu'elle ne l'a été avant. Maintenant, en ce qui concerne, pour prendre un exemple, les enquêtes qui sont menées sur le musée d'Auschwitz, cela dépend beaucoup des débats extérieurs. Pendant des décennies, les écoliers polonais ne pensaient que les seules victimes, sinon les principales victimes, étaient des Polonais. Quand il y a eu des débats autour du Carmel d'Auschwitz, quand il y a eu des discussions autour de la mémoire du musée du mémoire d'Auschwitz, la proportion a quand même beaucoup changé. Et même parfois, les enquêtes disaient que c'était les Juifs qui étaient principalement les victimes principales d'Auschwitz. Depuis que le gouvernement actuel est au pouvoir et que ces enjeux-là redeviennent importants, la tendance à dire que c'était principalement les Polonais qui étaient les victimes d'Auschwitz remonte. Donc, bon, voilà. Les sondages, c'est fluctuant aussi. Hein.
Et juste pour terminer, comment se passent aujourd'hui les relations entre les historiens qui travaillent sur la Shoah et le gouvernement actuel? Est-ce qu'il y a un dialogue qui peut s'instaurer?
Il y a une menace.
Une menace uniquement.
Il y a une menace. Il est clair que la menace, elle est peut-être moins idéologique malgré ce qu'on a dit là au début. Et la menace, elle est surtout financière parce que c'est les crédits qui tiennent beaucoup aussi le milieu de la recherche. Et là, il y a clairement une menace qui n'est pas seulement, qui ne concerne pas que les historiens du monde juif, qui concerne les historiens de manière générale. Et d'ailleurs, le 5 décembre s'est tenu une sorte de congrès, le 5 décembre dernier, s'est tenu une sorte de congrès des historiens polonais de l'histoire contemporaine, mais élargi aussi à d'autres historiens, pour tenter de définir des règles à l'égard de l'intrusion du politique et du politique sous sa forme de politique historique dans le champ de la recherche.
Oui, c'est ça qui est notable, effectivement. Nous suivrons bien évidemment avec beaucoup d'attention cette question. Je vous remercie beaucoup, Jean-Charles Churek, d'être venu aujourd'hui. C'était Mémoire Vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.